BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse, avec Guillaume Sommerer.
À vos côtés, bien sûr, jusqu'à la clôture, on entre dans la dernière ligne droite sur les marchés financiers, elle est bien compliquée. Cette séance, on la vit ici, au cœur de BFM Bourse, comme chaque jour de l'intérieur, et tous nos experts qui sont mobilisés. Alors, l'écart de taux entre la France et l'Allemagne, cet écart de taux atteint quasiment 80 points aujourd'hui sur un peu de 2017, mais surtout, la vitesse à laquelle les taux sont en train de s'écarter, cette vitesse, on ne l'avait plus vue depuis la crise des dettes en 2011, nous disait tout à l'heure Andrea Tweni. C'est ça qui est aussi interpelle. On a un CAC 40 en tout cas aujourd'hui en repli de 3%. On va essayer de comprendre alors pourquoi. Revenir bien sûr sur les perspectives politiques ici en France, parce que c'est la France, hein, le nerf de la guerre clairement sur les marchés européens aujourd'hui. On a l'ensemble des marchés européens d'ailleurs qui sont entraînés à la baisse, et l'euro aussi. L'euro est sous le dollar 0,7, et on demandera aussi à nos experts dans un instant jusqu'où. Jusqu'où la baisse et jusqu'où l'écartement des taux à venir en Europe. Ce sera au menu du club dans un instant. Mais il n'y a pas que la France dans la vie, et encore moins sur les marchés. Il faut suivre Wall Street qui reste sur ses records. Wall Street, allez, toute petite baisse vraiment symbolique du Nasdaq, moins 0,02%. On a du pire. Après son record d'hier, le Nasdaq, il tient. Et l'actualité toujours sur les valeurs autour de l'intelligence artificielle. Étienne Brack est avec nous depuis la Tour Euronext. Rebonjour Étienne. Effectivement, ne pas rater aujourd'hui certaines valeurs américaines au milieu de la tempête ici en Europe.
Et oui, puisque l'événement de la semaine, c'était Apple qui était passé, repassé première capitalisation mondiale. Et là, avec la baisse de 0,4%, Apple redescend en deuxième capitalisation mondiale, avec Microsoft qui reprend la première position. Et figurez-vous qu'il n'y a plus que 30 milliards de valo entre Nvidia et Apple. Donc à ce rythme-là, Nvidia pourrait finir première capitalisation, voire deuxième capitalisation mondiale dans les premières minutes, avec donc une baisse de 0,4% pour Apple, qui a quand même gagné 10% en l'espace de deux séances. Microsoft plus 0,2% quand Nvidia gagne 1,7% sur un plus haut historique au-delà des 130 dollars l'action.
Toujours cette bataille entre les géants de demain et d'aujourd'hui, d'ores et déjà, au milieu des... Voilà, c'est 7 magnifiques, 6 magnifiques, si on exclut Tesla. On reviendra sur le potentiel d'Apple. Est-ce qu'Apple a reconquis cette semaine ses lettres de noblesse? Est-ce qu'Apple est redevenu, grâce à ses annonces sur l'IA, une vraie bonne grosse valeur de croissance pour l'avenir? Cette question, on la posera. On organisera même un match à 17h35 avec deux avis diamétralement opposés. Un expert qui pense qu'effectivement Apple redevient une vraie valeur de croissance et un autre qui pense qu'au contraire, Apple, malgré ses annonces sur l'IA, est voué à devenir une simple valeur consommation. Rendez-vous donc pour ce match autour d'Apple à partir de 17h35. On vous proposera un certain nombre d'idées d'investissement et de pépites, donc aussi sur le marché, malgré les vents contraires. Cette séance est très compliquée. Sur la semaine, le CAC 40 perd désormais 6,5%. Il perd encore 3% cet après-midi. On est à vos côtés. On joue dans votre camp. Bienvenue à tous.
BFM Bourse, le club de la bourse.
Alors notez que pendant que la France s'écharpe, que les Français s'écharpent, que la France inquiète le marché, le monde lui continue d'avancer et l'IA de redessiner les rapports de force. On le voit d'ailleurs à travers Adobe. Adobe, c'est pas une petite valeur, c'est un gros titre de Wall Street. Et bien Adobe a publié ses résultats et ses perspectives boostées par l'IA. Le titre Adobe à Wall Street gagne à l'instant 16% grâce à l'IA. Voilà, une nouvelle fois l'IA. On en parlait aussi avec John Plassard tout à l'heure dans USA Today. Si vous avez raté le direct, le replay est disponible. Ça y est, il est en ligne sur notre application BFM Business. Vous allez dans BFM Bourse et dans USA Today, notre séquence USA Today avec John chaque jour. Raphaël Thion nous rejoint. Bonjour Raphaël.
Bonjour Guillaume.
Bienvenue, ravi de vous retrouver, directeur des stratégies de marché de capitaux de Tikeo Capital. Cyril Collet aussi nous accompagne en fil rouge. Bonjour Cyril.
Bonjour.
Directeur de la gestion quantitative action de CPRM. Compliqué cette séance, compliqué cette semaine. On perd 6,5% cette semaine sur le CAC. Depuis le début de l'année, le CAC désormais est négatif. Et ce soir, moins 3%. Bon, Raphaël, comment est-ce que vous... Ça fait 5 jours maintenant que la dissolution a été annoncée. On a le sentiment qu'elle n'est toujours pas digérée sur le marché. On est sur un excès de marché. Au contraire, c'est très très rationnel de voir le marché réagir comme ça. Comment est-ce que vous regardez les choses?
Ouais, c'est pas un mouvement anodin là. On peut parler d'un mouvement de marché qui fera date, qui est significatif. Beaucoup d'incertitudes évidemment vis-à-vis de ces élections. Incertitude complète. Souvent, on utilise le mot incertitude. Il est un peu galvaudé. On le passe à toutes les sauces. Là, pour le coup, je pense qu'on peut parler qui sera élu. Première incertitude. Quel programme économique, parce qu'aujourd'hui on n'a pas vraiment de visibilité limpide vis-à-vis des programmes de chacun des partis. Et puis une dernière incertitude, c'est comment les marchés réagiront. Souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps, au moment du Brexit ou de l'élection de Donald Trump, on n'avait pas vraiment bien anticipé les réactions de marché. On verra cette fois, mais encore une fois, tout ça rajoute de l'inquiétude. Les marchés n'aiment pas l'incertitude. Et donc on a des mouvements qui sont effectivement très significatifs. Vous parliez du CAC qui efface ses gains en quelques jours. Évidemment, on va évidemment parler des taux d'intérêt, cette dynamique des taux d'intérêt, de l'écartement entre les taux français et les autres pays, cette dynamique de la soutenabilité de la dette, ça redevient des thématiques principales et probablement qu'on va en parler bien au-delà des élections.
Alors, je vois par exemple sur les réseaux des commentateurs plus politiques économiques qui disent « Ah, les marchés font pression sur le résultat de l'élection. Ouais, les marchés font pression. Ils donnent un prix au risque. » Enfin, comment est-ce que vous répondez? Comment est-ce que vous peut-être que le marché fait pression d'ailleurs. Enfin, comment est-ce que vous regardez? Je vous pose la question parce qu'on est BFM Business. On est là pour apporter de la science dans tout ça. Comment est-ce qu'on peut effectivement apporter l'analyse à ceux qui pensent que le marché fait pression? Et peut-être le marché fait-il pression d'ailleurs, Raphaël?
Alors, il fait pression probablement, mais il le fait pas de manière coordonnée. Évidemment, il n'y a pas un monsieur marché qui décide des mouvements. En revanche, on peut imaginer que ces mouvements de marché sont observés par les intervenants politique, économique. Évidemment, cette thématique de la soutenabilité des déficits sera, en particulier à cause des mouvements de marché, au centre des débats. Qu'en est-il des différents programmes économiques proposés? Dans quelles mesures sont-ils applicables, réalistes et soutenables vis-à-vis des dynamiques de taux d'intérêt? Quel est l'appétit du marché pour absorber ces futurs déficits? Si on a plus de déficits à financer, plus d'offres d'obligations gouvernementales, quelle sera la demande face à cela? Évidemment, cette thématique, elle s'impose d'elle-même. Et on peut imaginer qu'effectivement, de tous bords politiques, on observe de près ce que font les marchés et on ajustera aussi le discours en fonction de la réception des marchés.
Ah, vous croyez?
On peut l'imaginer.
On est dans une période où on peut aussi servir du marché en disant « Regardez le marché qui essaie d'influencer votre vote ». Enfin, on est dans l'époque de Donald Trump. On n'est pas chez les Américains, mais quand même, on est dans cette époque-là. Bon, comment est-ce que vous regardez ça, les mouvements de marché? Même question qu'à Raphaël, il y a un instant, après 5 jours sont passés depuis l'annonce de la dissolution et on en est encore là, moins 3% 5 jours plus tard sur le CAC 40 à l'instant. C'est pas parti pour s'améliorer puisqu'on accélère encore à la baisse à l'approche de la clôture. Cyril?
Je pense effectivement que l'élément significatif, c'est la hausse du taux 10 ans, lié à l'incertitude. Alors oui, l'endettement et ainsi de suite, ça revient au goût du jour, mais c'est quelque part la prime de risque pays qu'on est en train de payer sur la France. Les grandes capitalisations françaises, Sanofi, LVMH, CEO, tout Total, font la plupart de leur chiffre d'affaires à l'étranger, donc elles ne sont pas concernées par ça, entre guillemets. Mais bien entendu, tout le reste de l'économie française se finance par rapport au taux 10 ans. Et c'est ça qu'on joue, c'est-à-dire que le taux 10 ans monte, parce qu'on pense qu'effectivement, il faudra financer les programmes ou pas. Et donc cette incertitude-là va faire peser sur les taux plutôt une poussée à la hausse. Et si on monte les taux, tout le monde surfinance beaucoup plus cher.
Parce que les taux auxquels empruntent les entreprises dépendent du taux de l'État.
Alors ça dépend des fois, mais souvent oui. En attendant, ce qu'on fait, c'est que quand on analyse le risque d'une entreprise, on regarde le risque du pays, et souvent on ajoute ce qu'on appelle un spread, un écart qui permet de dire, si je mets plus 20 BP, c'est un petit peu risqué, si je mets plus 200 BP, c'est plus risqué.
Point de base.
Vous avez même des entreprises nationales qui arrivent à emprunter sur le long terme, peu ou prou, au niveau des taux de l'État. Mais, bien entendu, si le taux global monte, ça pousse les modes de financement pour tout le monde à la hausse. Et c'est ça la vraie anxiété. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'anxiété politique. Ce que je veux dire, c'est que c'est la conséquence économique que le marché est en train d'intégrer. Il ne l'a pas trop fait lundi, il était plutôt calme, même si les taux ont commencé à bouger assez vite. Et là, aujourd'hui, il est en train de dire oui, il faut que j'intègre ce mode de refinancement qui va être beaucoup plus douloureux pour les entreprises dans ma valorisation. Même si tout ça est dit, je pense que c'est un peu vite et je pense que c'est un peu fort, mais il y a quelque part une vraie logique à ça.
Enfin, qu'est-ce qui a changé depuis lundi? Parce que, donc on le disait, aujourd'hui on a un nouveau plus depuis 2017 sur l'écart de taux entre la France et l'Allemagne, 80 points d'écart de taux. Qu'est-ce qui a changé? Alors depuis lundi, qu'est-ce qui a changé? On a le programme de la gauche, par exemple. Bon, ça y est, une gauche unie, effectivement, et un programme dont le marché prend aussi connaissance. Est-ce que c'est ça qui peut participer à faire basculer davantage encore le marché? Enfin, qu'est-ce qui a changé pour expliquer le mouvement du jour? Ou c'est des phénomènes techniques aussi? Pour vraiment essayer de comprendre et d'apporter de la science là-dedans, ouais. Raphaël.
Il y a clairement une combinaison de facteurs. Évidemment, on commence petit à petit, chaque jour passant, à y voir un peu plus clair. Des alliances se font, les programmes économiques s'affinent. Et effectivement, le marché est en train d'intégrer cette idée que oui, il est possible que demain, un parti de l'opposition qui soit moins orthodoxe en termes budgétaires puisse accéder au pouvoir. Ça, c'est une perspective qui est neuve. On ne parlait pas de ça il y a une semaine. C'est donc très brusque, très brutal. Le marché est surpris, n'avait pas anticipé. Et c'est une perspective aussi qui est neuve historiquement. Dans notre histoire, on a eu assez peu d'événements de la sorte qui ont suscité tant d'angoisse vis-à-vis de ces dynamiques budgétaires. Alors, il y en a eu chez nos voisins. On se souvient, et ça a été peut-être l'inauguration finalement du phénomène d'abord de la Grande-Bretagne avec le mini-budget de Liz Truss qui a fini assez mal pour elle vu que les marchés, dirons-nous, l'ont forcé à la sortie.
Et la Grande-Bretagne n'est pas un petit peu émergent. Hein, voilà. On parle de la Grande-Bretagne.
Et finalement, les circonstances avaient des similitudes. Un nouveau gouvernement qui est prêt à laisser filer les déficits dans le cadre d'un nouveau budget et des marchés qui réagissent très fortement. Ça a été une surprise en ce temps-là, mais ça a été finalement un premier signe. On a eu effectivement l'Italie à peu près sur une période équivalente où, avec un gouvernement de droite et d'extrême droite, on a vu une inquiétude budgétaire se manifester. Donc voilà, on commence à avoir des scénarios qui se répètent, une thématique de la soutenabilité de la dette qui revient assez systématiquement maintenant. La France, c'est aujourd'hui. Peut-être demain, on parlera des États-Unis, où finalement, le même genre de débat va se poser dans les semaines qui viennent. On a deux candidats qui ont l'air très dépensiers, qui ont l'air tout à fait dans la capacité de laisser filer la dette. Est-ce qu'on peut avoir une crise de la dette vis-à-vis de la réaction de ces marchés à ces grandes annonces budgétaires? À voir. En tout cas, c'est ça le risque qui inquiète le marché. Et les facteurs de stress tels que les écartements de taux d'intérêt sont clairement des indicateurs de ce risque.
Cyril?
Oui, alors, si on a une crise de la dette, c'est juste le début, ce qu'on peut voir au niveau des marchés actions, mais je suis évidemment complètement d'accord. On est passé d'un monde en quelques mois où on nous annonçait 6 baisses de taux de la Fed, 3 baisses de taux de la BCE, finalement, les taux le montent. C'est un changement radical pour l'instant.
Et Wall Street a bien encaissé, Wall Street est sur des records.
Oui, mais puis ils sont pas encore concernés pour l'instant. Ça arrive tout doucement de leur côté. Parce que finalement, sur les dernières années, l'État qui a le plus fait monter sa dette, c'est les États-Unis, qui a le plus dépensé, entre guillemets, à tout va. Alors, ils partaient d'un niveau d'endettement plus faible.
Ils ont une super croissance.
Ils ont une devise que tout le monde aime bien. OK. Mais en attendant, au niveau de l'endettement et au niveau de l'endettement public, on est quand même sur des niveaux partout qui sont très, très élevés. Et la vraie condition, c'est comment on se refinance. Si à un moment donné, plus personne ne nous prête, comment on fait? Et donc là, comme je disais juste avant, en dehors de la vitesse de cette semaine qui est effectivement très importante sur le mouvement de taux, ce qui est fort, c'est le changement de paradigme. Tout le monde allait vers, oui, on va payer la dette moins cher, regardons comment on peut investir, qu'est-ce qu'il y a besoin de capitaux, et ainsi de suite. Là, c'est l'inverse. On va maintenant regarder les entreprises qui n'ont pas besoin de capitaux. Même si les grandes entreprises, elles se financent en moyenne à 5-7 ans, un pic autour de 5 ans pour commencer. Donc elles, c'est pas très grave, mais les petites caps, les small caps, toutes les petites valeurs, pardon, elles vont avoir un impact beaucoup plus rapide là-dessus.
C'est terrible, les small caps, les petites valeurs,
on espérait leur commencer
à se réveiller, mais sur la semaine, moins 10%. Allez, hop.
Parce que c'est le mode de financement qui est en jeu,
c'est ça,
de l'ensemble de l'économie, mais aussi de l'État.
Mais il y avait un phénomène là tout au long de ces derniers trimestres de rachat des petites valeurs par le private equity. Est-ce que le private equity va arrêter de racheter les valeurs françaises dans la mesure où il y a ce risque pays qui peut-être est en train d'émerger? Est-ce que par exemple on peut avoir ce type de conséquences, effectivement, moindre rachat à venir d'entreprises cotées par le private equity parce que effectivement se pose le problème de la dette et puis de la soutenabilité, quoi.
Au niveau du private equity, je suis pas un spécialiste, mais il me semble qu'il y avait quand même beaucoup d'argent à investir ces 5-7 dernières années, donc ça a aidé à augmenter le nombre d'opérations. Mais encore une fois, si vous rachetez une entreprise aujourd'hui avec un besoin de financement assez faible, ça ne va pas changer votre vie. Si c'est de la restructuration ou de l'ajustement industriel, si c'est un leverage buyout pour parler français, si vous avez besoin de beaucoup de dettes, ça va être différent.
Oui, sur les small caps qui soufflent à moins 10% sur la semaine, est-ce qu'on peut effectivement imaginer que le monde du private equity aussi pose un regard nouveau sur les entreprises françaises à l'avenir avec ce qui se passe?
Alors c'est une bonne question. Effectivement, l'activité du private equity sur le segment small cap, il est très important et à la fois important pour les acteurs de private equity comme pour les acteurs du small cap. Et effectivement, ce small cap, il est très dépendant de ce régime de taux d'intérêt. Donc évidemment, si on est dans un régime de stress sur les taux d'intérêt, un régime de pontification de la courbe, où on verrait par exemple les taux longs repartir à la hausse sur cette dynamique de taux d'intérêt et de déficit, alors on pourrait imaginer en filigrane effectivement une sous-performance de ces small caps, des difficultés de financement. Les small caps, les petites valeurs, pardon, sont très sensibles à ces conditions de financement, difficultés de financement d'ailleurs aussi pour d'autres acteurs. Et au final, on pourrait voir effectivement un ralentissement de cette tendance. Bon, là, on extrapole un petit peu, le phénomène est encore neuf, mais on peut effectivement raisonner à plusieurs coups d'avance.
Cyril. Et puis dans un instant, on regarde ce que nous offre le marché. C'est compliqué là ce soir.
Non, mais je pense que c'est vraiment important. Ça, au-delà effectivement du rationnel, ça monte ou ça baisse. Je pense qu'à l'intérieur du marché, la façon de sélectionner les titres, la façon d'investir dans les entreprises vient de radicalement changer. On passe d'un investissement où on pouvait avoir besoin de dette et il n'y avait pas de souci par rapport à ça, à on investit uniquement dans des entreprises qui sont financées pour 5 à 7 ans. C'est pas les mêmes bilans, c'est pas le même niveau de capitalisation. Et oui, c'est plutôt favorable aux grosses capis qui vont avoir beaucoup de ventes, on va dire, à l'international, qui vont pas uniquement être concernées par le marché français.
Sur la semaine, les small cap à Paris, en France, reculent de 10%. C'est plus que les small cap européennes. Et on entre dans la 17h20, dans la dernière ligne droite, plus qu'un quart d'heure avant la clôture. On accélère vers cette ligne droite, vers cette clôture. Hélas, dans le rouge, ouais. C'est une moto qui descend la pente là ce soir. Moins 2,8% notre CAC 40 sous les 7500 points. Effectivement, on a enfoncé tout au long de la semaine plein de paliers techniques très très importants. Et nos analystes techniques, André Atouigny aujourd'hui, mais hier Romain Dobry nous disait on a encore plusieurs paliers techniques à la baisse à franchir, sans doute avant d'avoir terminé cette purge sur les marchés. En tout cas, l'avenir dépendra évidemment du résultat des législatives ici en France. On va revenir sur l'OAT dans un instant. Du côté des valeurs, il n'y a aucun rescapé sur le CAC 40. Les 40 valeurs sont en repli désormais, notamment celles qui avaient le plus progressé. On pense par exemple à Thalès. Thalès qui recule aujourd'hui de 7% à la Bourse de Paris. C'est pas tous les jours que Thalès a lanterne rouge. Ben aujourd'hui, c'est le cas. On a aussi parmi les replis marquants du jour, à nouveau le secteur bancaire. Crédit Agricole perd à nouveau 4%. Société Générale perd également du terrain, moins 3%. Société Générale sur la semaine perd quasiment 15%. BNP Paribas sur la semaine perd quasiment 11%. Vinci, TF1, M6 sont également en repli. Les mêmes victimes depuis l'annonce de la dissolution. Mais aujourd'hui, ces valeurs sont à nouveau en repli très très marquées. Par exemple, le titre Vinci, à l'instant, est en train de reculer d'un peu plus de 2,5% supplémentaire. Semaine très compliquée pour Vinci. On continue d'en parler, bien sûr, avec Cyril Collet et Raphaël Thuin. Est-ce que, c'est une question qu'on peut se poser d'ailleurs, est-ce que ce qui se passe, le risque politique avec ce qui se passe en France pourrait déclencher... C'est une question qu'on voit aussi d'un de nos auditeurs, il s'appelle Mathieu, il nous a écrit sur le fil XBFM Bourse. Est-ce qu'on peut imaginer que ça pourrait déclencher les baisses de taux de la BCE ? Voire pourquoi pas entraîner peut-être un mouvement d'assouplissement de la Fed un peu plus prématuré, un peu plus anticipé que ce que tout le monde imaginait, parce qu'il y a ce retour du risque politique et vous parlez d'une possible crise des dettes, je ne sais pas si ça se manifeste. Est-ce que là on a un déclencheur de quelque chose pour les banques centrales aussi ?
Elles sont quand même dans des politiques un peu différentes. Je pense qu'elles sont dans des politiques de moyen terme. Elles ont bien géré les trois dernières années. Et on ne parle pas de toutes les baisses de taux qui ne sont pas arrivées, justement parce qu'elles font très attention. De notre côté, c'est plutôt l'inflation qui est sous revue. Aux États-Unis, c'est plutôt le marché du travail. Donc je pense que c'est quand même un peu tôt pour sortir le super.
D'autant qu'en valeur absolue, disant français, il n'est pas du tout à l'incendie, il est à 3,12. C'est l'écart de taux avec l'Allemagne qui pose problème. Et là, à 3,12, on est très très loin du niveau d'il y a quelques années pendant la crise des dettes. On a de la marge là-dessus.
Et puis si on parlait juste avant, des dépenses un peu festives des États ces dernières années, si la BCE intervient à chaque fois qu'il y a un État qui est un peu en risque, ça veut dire qu'il n'y aura plus jamais de gendarmes, quoi. Ça veut dire que c'est la porte ouverte.
Oui. Est-ce que, toujours dans la perspective des législatives, parce que les marchés européens se focalisent vraiment sur la France en cette fin de semaine, est-ce que, s'il n'y a pas de majorité absolue à l'issue de ces législatives, ce qui est probable d'ailleurs, si on va vers une paralysie parlementaire, on peut se dire que ce serait un moindre mal, ou on peut même pas se dire ça, en l'occurrence Raphaël ?
Alors c'est une bonne question, tout ça c'est des questions très neuves. On se souvient par exemple qu'aux États-Unis, ça a été souvent vu positivement par le marché. Une espèce de statu quo qui permettait à l'économie de continuer sur sa dynamique sans qu'il y ait des interventions politiques trop susceptibles de contrer la croissance ou de nourrir l'inflation. Et donc, si on prend l'exemple des États-Unis...
On parle du point de vue des marchés, toujours.
Voilà, du point de vue des marchés, sur le statu quo peut être vu comme une issue favorable. Aujourd'hui, le marché, il est en train de prendre peur d'une politique très agressive en termes budgétaires qui serait susceptible de faire creuser les déficits, la dette de la France. Un statu quo qui serait une façon de laisser les choses en l'état, de ce point de vue-là, serait probablement un signe de soulagement d'une façon ou d'une autre.
Mais en même temps, Gilles Mouet, qui est le chef économiste d'AXA, nous disait hier, s'il y a une paralysie parlementaire, ça veut dire qu'il n'y aura plus, de toute façon plus de réformes. En tout cas, pas de réforme qui aille dans le sens de ce que le marché attend. Et donc, sans doute, si on va vers l'immobilisme, une dégradation, de nouvelles dégradations à venir de la note française.
Oui, mais pas besoin de financement supplémentaire non plus. Enfin, il y a effectivement le pour et le contre. C'est-à-dire que on a vu juste avant le Front Populaire et les propositions qu'ils ont faites un peu rapides, parce que c'est dans la semaine. Mais ça, en face de ça, il faut mettre d'énormes moyens de financement. Donc si jamais il y a statu quo à l'Assemblée, ça veut dire qu'il n'y aura pas de mouvement finalement politique fort, moins de réformes certes, mais pas de besoin de financement supplémentaire. Or, c'est bien une des angoisses aujourd'hui, c'est-à-dire que la France doit appeler beaucoup plus l'épargne, on va dire, internationale pour se financer.
C'est vrai que du point de vue des marchés, il faut reprendre un petit peu le contexte avant cette séquence électorale. La France était déjà très fébrile vis-à-vis de sa notation, vis-à-vis de ses déficits. Donc, en termes de déficit, la France est proche de 5% de déficit. C'est le deuxième plus mauvais élève de la zone euro, derrière la Slovaquie. Donc, il n'y a pas de quoi se réjouir. En termes de dette ramenée à son PIB, là aussi, on est sur des chiffres très élevés. Parmi les plus mauvais élèves, à 110%. On a eu la dégradation de la note de la France il y a 10 jours. Donc, même avant les élections, le sujet était un sujet d'actualité, un sujet d'inquiétude pour les marchés. Ça ne s'était pas vraiment encore manifesté en termes de mouvement de marché, mais c'était un sujet qui était sur toutes les lèvres. Aujourd'hui, ce sujet, il prend de l'ampleur. Et effectivement, les perspectives d'avoir une politique qui renchérirait cette dynamique négative en termes de déficit est effectivement...
Alors, il y a des secteurs qui trinquent littéralement en bourse. Est-ce que vous voyez néanmoins, justement, à force de voir le marché baisser, des points d'entrée, quoi ? Enfin, oui, est-ce que... Enfin, on est une émission d'investissement, hein, BFM Bourse, on se projette dans l'avenir, et c'est votre métier aussi auprès de vos clients. Est-ce que vous êtes prêt à commencer à leur dire, vous avez peut-être déjà commencé à le faire, qu'on est sur des points d'entrée, là, sur certains fragments de marché, Raphaël ?
Alors ça, c'est une très bonne façon de poser la chose. Effectivement, beaucoup de risques, beaucoup de sentiments d'inquiétude. Ça va être aussi des opportunités, il va y avoir des choses à faire. On est d'avis aujourd'hui que c'est plutôt le moment d'appuyer sur pause, d'être plutôt sur la défensive, plutôt sur la prudence, garder des liquidités sur le côté. On est sur le début d'une histoire qui est très incertaine.
Ça, ce que vous venez de dire, c'est presque le plus important depuis le début de ce club. Parce que, voilà, bien sûr, il y a l'analyse et puis il y a ce qu'on fait. Et ce qu'on fait se traduit la vision qu'on a. Vous vous dites, on se met de côté, quoi.
Voilà. Il est sûrement un peu tôt pour redéployer. Plutôt le moment d'attendre un petit peu, d'avoir plus de clarté sur les événements. Et puis, on n'est pas encore sur des niveaux de détresse. Aujourd'hui, on a vu un mouvement qui est très significatif sur le spread. Mais vous regardez les taux souverains. Ils n'ont pas vraiment bougé sur la semaine.
On est à 3,11. Sur le 10 ans français, c'est loin d'être la cata. On est au même niveau qu'avant la dissolution, 3,11.
Exactement. Donc, pas vraiment de niveau sur les taux d'intérêt en absolu. En relatif, là, oui. Mais même en relatif vis-à-vis de l'Allemagne, on est à 80 points de base. Ça fait plus 30 points de base comparé à il y a une semaine. C'est beaucoup en relatif. Mais vous prenez, par exemple, d'autres épisodes, type, on parlait de la Grande-Bretagne, où le spread a explosé. On a parlé de 90 points de base. Je ne parle pas de l'Italie. On était à plus de 100 points de base. On n'est pas encore sur des niveaux de détresse absolue. Sur les actions, évidemment, ce n'est pas brillant, mais on est aujourd'hui à 0% de performance sur l'année. Ce n'est pas catastrophique. À un moment où le marché avait besoin d'une consolidation, besoin d'une respiration, on ne voit pas encore d'opportunités immanquables. Après, il va falloir ouvrir les yeux, se concentrer sur le fondamental. On va revenir un petit peu aux fondamentaux de l'investissement. Est-ce que l'entreprise que j'ai dans mon portefeuille est affectée par cette dynamique ? Sa capacité à générer du profit sera-t-elle mise à mal si tel ou tel scénario ? Oui. Et si ce n'est pas le cas et qu'on a des cours très décotés, alors oui, redéployer fera ça.
Thalès, ce soir, moins 6,5, je ne sais pas, mais les commandes, ça dépend du gouvernement. Pour le coup, ce n'est pas le domaine réservé. Enfin, je ne sais pas, mais il peut y avoir un impact des législatives aussi sur les commandes. Enfin, Thalès, ce soir, est à moins 6,5. Alors, le titre partait très haut. Il faut voir aussi les prises de bénéfices. Bien sûr, il faut tout relativiser sur le marché. Le marché, il est toujours complet. Voilà, il ne faut pas le prendre par un seul petit bout. Mais quand même...
Enfin, encore une fois, c'est très centré sur la France. Je ne voudrais pas faire l'investisseur action internationale. Mais aujourd'hui, la plupart des portefeuilles sont à minima euro, voire européens, voire internationaux. Et pour l'instant, c'est vraiment un épiphénomène français. Alors, ce n'est pas pour ça que si jamais il y a des opportunités de par une baisse de la valorisation de titres français à l'intérieur d'un secteur européen, bien entendu qu'on va regarder ça. Mais je suis assez d'accord. Je pense que pour l'instant, c'est un peu tôt. Je pense fondamentalement qu'au-delà du mouvement absolu, et c'est bien de rester de côté, c'est beaucoup trop tôt pour revenir. Il y a une vision, c'est est-ce que ma entreprise a besoin de financement ou pas. C'était plus forcément le critère ces derniers temps. Ça va redevenir le critère de sélection, un des critères principaux, mais c'est vraiment trop tôt pour se dire qu'il faut remettre de la France aujourd'hui.
Oui. La France qui d'ailleurs reporte une émission, la Banque publique de développement reporte l'émission d'un green bond qui était prévu aujourd'hui. Voilà, autant attendre que les choses se détendent effectivement. Étienne nous appelle, 17h28 à 7 minutes de la clôture. Rebonsoir Étienne, vous êtes au cœur du marché. On en est où là sur le CAC 40 ?
Bonsoir. Les 7500 points sont vraiment en danger et rien ne dit qu'ils seront là ce soir à la clôture. 7499 points à l'instant, c'est une baisse de 2,7% avec des volumes d'échanges qui sont vraiment conséquents puisque vous avez 4 milliards d'euros négociés dans le CAC 40 à 6 minutes du fixing. Aucune valeur dans le vert et donc un bilan hebdomadaire qui pour l'instant est loin d'être glorieux. Moins 6%, c'est la plus forte baisse hebdomadaire depuis février 2022.
Effectivement, tout de suite Étienne pour la clôture en direct sur BFM Business. Tout de suite, il est 17h29, on entre dans la data room. Le vendredi, c'est votre bar à datas. data. La data room, un cocktail toujours détonnant de data qui secoue notre vision du monde. Et nos deux baristas ce soir, sont-ils prêts? Êtes-vous prêts, Cyril et Raphaël?
Oui.
Oui.
On va démarrer avec vous, Raphaël. Votre data ce soir, 0%.
0%, c'est l'écart de taux d'intérêt entre le taux d'emprunt gouvernemental français et le taux d'emprunt gouvernemental portugais.
Ouh.
Donc dire ça comme ça, c'est effrayant. C'était difficile de trouver une thématique plus centrale à celle du marché que celle-ci. Effectivement, la France aujourd'hui est en train d'être mise à mal par les marchés. Il y a un risque France qui est en train de se développer vis-à-vis des marchés.
Et la France se refinance au même taux que les Portugais.
Et la France se finance au même taux que les Portugais. Donc il y a des raisons positives à ça, côté Portugal aussi d'ailleurs. Aujourd'hui, on parle d'un excédent plutôt qu'un déficit.
Ils ont du mérite. Hein.
Les taux de dette rapportés au PIB sont moindres qu'en France, ils sont inférieurs à 100% là où la France est à 110. Mais évidemment, malheureusement, le revers de cela, c'est qu'aussi il y a un risque négatif sur la France dont on a parlé. Aujourd'hui, la France est scrutée. Les événements à venir dans les jours qui viennent seront très importants pour cette dynamique de taux d'intérêt. On en a parlé aussi, ces taux d'intérêt souverains d'une grande nation comme la France en Europe vont fluidifier les marchés, vont servir d'ancrage à l'ensemble des valorisations des actifs. Donc on n'est pas sur un événement anodin, on n'est pas encore en état de pouvoir dire qu'on est sur une catastrophe en devenir ou sur des niveaux de grande détresse, mais on est sur une thématique qui n'est pas anodine, dont on reparlera et qui pourrait définir les marchés des semaines à venir.
Et alors, la France se finance à peu près au même taux que les Portugais. Regardez par exemple le 10 ans français, le 10 ans grec. La France est plus proche, son niveau de refinancement, les taux français sont plus proches du taux grec que du taux allemand désormais. On a 50 points d'écart seulement avec la Grèce contre 80 avec l'Allemagne. Il faut regarder ça sérieusement, au pied de la lettre, ou surtout pas en l'occurrence quand même, Raphaël?
C'est malheureusement une réalité économique. Ouais. Les Grecs, les Portugais et d'autres ont fait les efforts nécessaires dans la douleur depuis 10 ans pour redresser leurs finances et se mettre sur un cercle vertueux. Est-ce que ça sera le tour de la France? On a beaucoup dit que la France n'était plus dans le nord, mais maintenant était dans le sud de l'Europe. Oui. On va voir, c'est un peu tôt, mais l'alerte est réelle et devant nous peut-être des besoins d'ajustement pour regagner la confiance des marchés.
Raphaël, c'est livré à vous, Cyril, de faire aussi bien. Votre data ce soir, tiens, ça va nous changer des dettes souveraines quand même et de la France, là. On va prendre un petit peu l'avion.
Un petit peu de légèreté.
Ouais, plus léger. Votre data, votre chiffre ce soir, plus 20%.
Alors, plus 20%, c'est la croissance des pays asiatiques émergents, des bénéfices pour les entreprises en 2024. Et c'est surtout porté par, je prends quelques petits chiffres en support, la Corée, 103%, la Chine, 16%, et Taïwan, 24%. Alors, pourquoi la Corée, 100%? Simplement parce que Samsung, il y a un an et demi, avait eu des petits soucis, et qu'aujourd'hui, ça va beaucoup, beaucoup mieux. Donc, on parle beaucoup de l'IA, on parle beaucoup des États-Unis, on parle beaucoup, bien entendu, de cette, entre guillemets, ghetto scientifique et technologique que sont en train de créer les États-Unis. Mais investir dans les pays émergents aujourd'hui, c'est investir dans Samsung, dans Taiwan Semiconductor et dans tout un tas d'entreprises en Asie qui sont très technologiques et qui vont permettre, elles aussi, de tirer profit de l'intelligence artificielle. Alors, peut-être pas autant dans un premier temps que les grandes entreprises américaines, mais c'est surtout aujourd'hui des pays qui ont tous une croissance supérieure à 10%. 10%, c'est le maximum de ce qu'on a dans les pays développés, c'est aux États-Unis, mais tous les pays asiatiques aujourd'hui émergents ont une croissance supérieure. Donc je pense qu'en termes de diversification, dans un monde où il n'y a pas très longtemps les taux devaient baisser, on espère que ça va finir par arriver quand même, à ce moment-là on aura une valorisation qui est très attractive et des croissances fortes, donc une vraie possibilité de réallocation si ça continue un peu à baisser.
Toujours élargir son horizon d'investissement.
Toujours.
C'était la data room. Alors nos intervenants nous apprennent toujours beaucoup de choses, à nous tous et à moi en premier. Qu'est-ce qu'on en apprend auprès de vous, messieurs, dans ce club au cœur de BFM Bourse, grâce à vous? Et pour moi, il y a une grande leçon à retenir de cette semaine. Ah oui, c'est un peu comme à l'école. C'est très très personnel, mais j'apprends et je m'instruis moi aussi grâce à vous, grâce à nos experts. Et pour moi, la leçon de la semaine, c'est qu'un printemps pourri n'est en rien prédictif d'un été pourri à venir. Non, non, une Seine dans laquelle on peut pas se baigner en juin parce qu'il y a encore trop de débit pourra quand même être peut-être baignable au mois de juillet. Bref, sur les marchés comme dans la vie, il ne sert à rien de vendre la peau de l'ours et de crier défaite trop tôt. Pourquoi je dis ça? Regardez la Fed. Elle prévoit plus qu'une seule, baisse de taux cette année, une seule, alors que l'inflation ralentit beaucoup plus qu'attendu. Les indicateurs cette semaine nous l'ont tous montré. On est sur une désinflation désormais accrue aux États-Unis. Gilles Mouek nous en parlait d'ailleurs hier. C'est à retrouver en replay sur notre application BFM Business. Il nous disait, la Fed, là, est un petit peu en retard sur le ralentissement de l'inflation. Les dot plots, les prévisions de la Fed sont déjà désuètes. La Fed crie défaite trop tôt. Voilà ce que nous disait Gilles Mouek. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours trop tôt. Une autre preuve qu'il ne faut jamais partir défait trop tôt. Apple qu'on pensait foutu en bourse. Eh bien, désormais, Apple dépasse Microsoft et Nvidia. Apple est redevenue cette semaine la première capitalisation mondiale. Certes, grâce à l'IA, c'est le catalyseur qui alimente l'espoir que les clients paieront pour la prochaine génération d'iPhone. Mais on a un revival là sur Apple que tout le monde enterrait. Apple est redevenue cette semaine la première capitalisation mondiale. Cette semaine de marché montre donc que pendant que la France s'écharpe, le monde, lui, ne nous attend pas et continue d'avancer. C'est pas parce que la Seine est trop haute en juin pour s'y baigner qu'elle le sera encore en juillet. L'eau continue de couler sous les ponts des marchés. La grande leçon que nous aurons appris cette semaine, l'ensemble de nos experts et les marchés.
Très bien, élève Sommerer. Vous avez bien résumé la leçon de la semaine sur les marchés. Un journaliste qui écoute de si près les marchés, c'est notable. On voit qu'on est dans BFM Bourse. Mais il vous reste beaucoup à découvrir. À vendredi prochain pour la prochaine leçon.
Avec plaisir, avec plaisir. On commence à vivre quand on finit d'apprendre. C'est pas dans BFM Bourse qu'on va finir d'apprendre. Et grâce à nos experts tous les jours, un nouveau regard sur le monde. Merci beaucoup Cyril Collet, CPRAM, Raphaël Thuin pour Tikeo Capital. Bonne soirée, bon retour messieurs. Dans un instant, la clôture en direct. Étienne Brack sera avec nous. Et le potentiel technique pour la suite, c'est très important. Les niveaux techniques de marché dans ces séances de forte baisse. André Atouigny pour Saxo Bank sera également à nos côtés. A tout de suite.
BFM Business, BFM Bourse, la clôture à Euronext.
Etienne Brack est avec nous pour cette clôture hebdomadaire. Rebonsoir Etienne, on termine comment ce soir sur le CAC 40 et les marchés européens?
Bonsoir. Le CAC 40 ne clôture pas sur les plus bas niveaux de la séance, mais c'est pas une séance glorieuse, hein, loin de là, puisque c'est la pire séance de l'année. Il faut revenir à juillet 22 pour voir une baisse supérieure à 2%, 2,6%, même hein, pour être précis ce soir à la clôture. Le CAC 40 qui sauve de peu les 7500 points, 7503 points, avec des volumes d'échanges qui sont vraiment conséquents, puisque vous avez 6,6 milliards d'euros négociés dans l'indice parisien. À souligner que 39 valeurs du CAC 40 sont dans le rouge. Seul Dassault Systèmes arrive à sauver un petit peu la séance avec un titre qui est stable. À l'inverse, vous avez Thales qui perd 6,7% à 150 €, AXA qui a déjà perdu 4% hier, lâche 4,9%, 29,43, vous avez Stellantis qui perd plus de 4% à 18,81, Camp BNP ou encore Crédit Agricole cède plus de 2,5% ce soir à la clôture. À noter qu'en plus de volume d'échanges importants, vous avez une semaine qui a été très difficile avec une baisse hebdomadaire supérieure à 6,3%. Sur l'ensemble de la semaine, le CAC 40 a lâché 280 points et efface l'ensemble des gains accumulés depuis le début de l'année, puisque désormais la performance depuis le 1er janvier est légèrement négative, alors que Wall Street est sur des records. Regardez l'indice Nasdaq qui tient au-delà des 17 630 points, quand le Dow Jones de son côté perd 0,3%, idem pour l'indice S&P 500. Le 10 ans français qui se retrouve à 3,1%, c'est-à-dire le même niveau que vendredi soir à la clôture, après avoir quand même monté au-delà des 3,3% la semaine dernière. Néanmoins, vous avez un spread, un écart de taux entre le 10 ans français et le 10 ans allemand qui est sur des plus hauts de 2022, au-delà des 80 points de base. Et donc la Bourse de Paris qui clôture dans le rouge, plus forte baisse annuelle. Hein, il faut revenir à juillet 22 pour avoir une baisse de 2,6%. Et donc un CAC 40 qui sauve de peu les 7500 points, 7503 points. Et donc des volumes d'échanges conséquents avec plus de 6,6 milliards d'euros négociés ce soir dans l'indice parisien.
André Atouigny avec nous justement, gros volume ce soir dans cette forte baisse du marché, mais qui en toute fin de séance aura un tout petit peu à peine hein, limité les dégâts. André, comment est-ce que vous voyez le signal de ce soir pour la suite?
C'est vrai qu'on parlait tout à l'heure du niveau de support 7464, c'est un niveau sur lequel on a rebondi à peu de choses près, à quelques points près. C'est un niveau sur lequel on a rebondi, donc ça c'est peut-être le seul enseignement positif qu'on peut retenir de cette séance, c'est que ça laisse un petit peu d'espoir de revenir au-dessus des 7005. On avait cette ancienne zone de support, hein, 7550 qu'on a cassé, c'est ce qui nous a envoyé le signal négatif le plus fort cette semaine. Alors après il y a toutes les statistiques hein, que vous avez déjà citées hein, sur les pires performances hebdomadaires depuis 2022, une des pires séances aussi depuis 2022, donc du coup on est sur quand même une séance très négative. On a des signaux techniques qui sont très négatifs sur le CAC, on n'a plus vraiment de divergence, donc du coup ça veut dire qu'on est sur un sentiment négatif. Et si on venait à casser ces 7464 la semaine prochaine, derrière les niveaux de support qui tiennent, ils sont assez éloignés, donc on a 7004, mais sinon derrière c'est la zone 7280-7003 qui devient la principale zone de support à surveiller pour les séances à venir. Donc voilà, du coup une séance assez négative sur le CAC, mais surtout une semaine et une performance hebdomadaire très négative qui est complètement à l'opposé de ce qu'on voit sur les marchés américains, où on a un Nasdaq qui lui peut-être se dirige vers sa meilleure semaine depuis avril. Donc du coup, on est complètement à l'opposé. Il y a une vraie sous-performance du CAC en Europe et aux États-Unis.
Effectivement, juste pour dédramatiser quand même, on rappelle que le 10 ans français est à 3,11, le même niveau, effectivement, Étienne le disait, qu'il y a une semaine avant la dissolution, 3,11. Ce qui pose problème, c'est l'écart de taux avec l'Allemagne. Cet écart de taux, lui, s'accroît très très vite à un rythme qu'on n'avait plus vu depuis combien de temps? L'accroissement, Andrea, de cet écart de taux entre la France et l'Allemagne, la vitesse, on l'avait plus vu, une telle vitesse depuis combien de temps?
Depuis 2011. Hein, cette augmentation hebdomadaire du spread spread entre la France et l'Allemagne est au plus haut depuis 2000, c'est le plus haut depuis 2011. Hein. Donc on a un écart de spread qui est autour des 76 en ce moment entre la France et l'Allemagne. C'est vrai, vous l'avez dit, le taux de l'OAT, le rendement de l'OAT n'est pas à un niveau du tout inquiétant, mais cet écart de spread avec l'Allemagne, lui, est beaucoup plus inquiétant et prend encore une fois des dimensions qui sont assez importantes. Hein. C'est le plus haut, on a atteint le plus fort spread depuis 2017 et l'augmentation par rapport à la semaine dernière, la plus haute, la plus grande depuis 2011.
C'est ça. Et en revanche, on va essayer de continuer de se rassurer quand même ce soir, parce qu'il faut regarder le marché scientifiquement et sans émotion. Pour justement le regarder de façon complète, il faut aussi regarder les assurances sur la France, les CDS. Est-ce qu'il y en a une énorme? Est-ce qu'on a une forte tension sur les CDS vis-à-vis de la France ou pas tant que ça, Andrea?
Alors on est à 38 points de base, c'est quand même une hausse qui est assez importante, c'est la plus forte depuis 2022, donc là faut pas aller chercher non plus très très loin, donc c'est un peu moins inquiétant peut-être que l'augmentation qu'on voit sur le spread France-Allemagne, mais on a quand même une tension sur les CDS, on est à 38 points de base, donc c'est quand même un niveau qui est assez élevé et qu'on n'a pas connu depuis un an.
Merci beaucoup André Atouini depuis Saxo Bank en direct avec nous. Le CAC ce soir perd donc près de 3%, on va débriefer les choses, anticiper la suite, c'est parti.
BFM Bourse, on refait la séance.
Avec ce soir, pour nous accompagner, on a besoin de deux vrais pros, hein, des spécialistes. Thierry Gauthier est avec nous, directeur général de GSD Gestion. Bonsoir Thierry.
Bonsoir Guillaume.
Et Julien Marion, les équipes web de BFM Bourse. Bonsoir Julien.
Bonsoir Guillaume, bonsoir Thierry.
Quelle semaine ? Sur la semaine, le CAC 40 aura donc perdu 6,5%. Sur la semaine, le CAC 40 aura perdu ses gains de l'année. Il est désormais négatif, le CAC, depuis le 1er janvier. Bon, le marché est rationnel ou dans l'exubérance là, Thierry ?
Ah, le marché était peut-être un petit peu excessif. Alors c'est un problème franco-français, hein, puisqu'on voit que c'est nous qui sous-performons nettement les autres places. Le DAX ou l'Eurostock, c'est moins 3 sur la semaine. Pour nous, c'est moins 6. Les Américains battent des records, ont battu encore plusieurs records cette semaine. Et nous, c'est moins 6 et on est en dessous des niveaux du 1er janvier. Donc, bah oui, c'est franco-français la problématique. Est-ce que les marchés ne mettent pas un peu la pression sur justement les prochaines personnes à nous gouverner en leur disant attention, les taux se tendent, l'argent va vous coûter cher si vous laissez déraper les finances publiques prochainement. Il faudra compter sur nous pour vous le faire payer. C'est peut-être un message aussi qui est envoyé. En tout cas, pour le moment, on le paye assez cher.
Les volumes ce soir, plus de 6 milliards d'euros échangés dans cette baisse de quasiment 3% pour le CAC 40. Bon, le marché est rationnel ou exubérant là ?
Est-ce qu'on peut pas voir le verre à un tiers vide ?
Alors attendez, un tiers vide, un tiers plein et l'autre tiers, c'est quoi ?
Deux tiers vides.
Deux tiers pleins.
Non, mais la semaine n'est pas bonne, hein, on va pas mentir. Mais quand vous regardez, il n'y a pas eu de capitulation sur une séance, ça faut quand même le dire. On baisse par touche. On baisse pas d'un coup comme on a vu avec des événements autrement peut-être plus graves, hein, comme la guerre en Ukraine quand ça a éclaté, ou même le Brexit. Hein. Donc le marché est quand même rationnel, je pense, parce qu'il prend le risque politique comme il vient. En fait, il regarde ce qui se passe. Et voilà.
Est-ce qu'il vaut mieux une grosse baisse violente pour que ça dure un peu moins, ou enfin voilà, ce soir par exemple le CAC signe donc sa plus forte baisse de la semaine, on termine la semaine, on arrive sur le week-end avec donc la plus forte baisse de la semaine, est-ce qu'on peut s'en réjouir en se disant bah au moins ça permet de purger, peut-être que ce mouvement durera pas, ou au contraire c'est le signe d'un mouvement amené à durer, enfin le fait qu'on accélère dans la violence là, qu'on amplifie la violence de réaction de marché là pour terminer la semaine et avant le week-end, c'est bon ou mauvais signe pour la suite, pour la durée de ce mouvement? Est-ce que plus ce sera violent, moins ce sera long?
Alors sur le mouvement actuel, moi je pense qu'on est un peu dans un système où les marchés ont peur, l'incertitude ça fait toujours peur aux marchés, donc on vend d'abord et on regardera ensuite ce qui va se passer. Donc les nouvelles sont plutôt mauvaises, donc là on est typiquement sur un adage boursier qui dit quand c'est pas bon, on vend la rumeur et on achètera la nouvelle. Alors la nouvelle ça sera quoi? Ça sera peut-être le lendemain du premier tour si les choses se dessinent à peu près, ou le lendemain du second tour, mais en fait je pense pas que ça aille beaucoup plus loin que cette période-là. Donc voilà, un temps de latence jusqu'aux élections, et puis un marché, moi je vois bien un marché qui redémarrera, parce que là il price un peu le pire sur les bancaires, sur les concessions d'autoroutes, sur les médias, la TV, sur l'énergie.
Autant de valeurs qui ont perdu 12 à 15% sur la semaine. Hein,
toutes. Sinon. Et voilà, il n'y en a pas une qui se démarque. Ouais. Là, dans tous ces secteurs-là, c'est entre moins 12 et moins 15, exactement. Et sans vraiment regarder. Donc je pense que ça, c'est un peu excessif et qu'on est vraiment sur un... On vend la rumeur et on achètera la nouvelle.
Mais je sais pas, moi je trouve que le marché est encore complaisant. Ça va peut-être vous surprendre, mais je trouve qu'il est encore complaisant. Le 10 ans français est à 3,11, comme avant la dissolution.
Ah, mais il y a
0 incendie sur le 10 ans français.
Ah, mais il y a un flight to quality, hein. C'est ce qu'a expliqué Étienne. Si le spread est aussi haut, c'est parce qu'on achète de la dette allemande en masse. Et le mouvement est moins élevé sur la France. Oui. Après, c'est vrai qu'il faut regarder les trois thermomètres que vous avez indiqués, CDS, le taux dans l'absolu et le spread. Et quand on regarde les deux, trois, on se compare et on se rassure. quelque part.
Alors, où sont les points d'entrée? Est-ce qu'on se dit d'ores et déjà, parce que vous êtes au contact des clients, Thierry, vos clients, c'est pas facile ces périodes-là pour les gérants. Et franchement, grande admiration toujours pour les gérants actions. Franchement, ça, nous, on est journalistes avec Julien, voilà, notre métier, c'est de poser des questions. On rencontre, on essaie d'être extrêmement scientifique dans notre façon d'aborder le marché. Mais vous, vous avez en plus des portefeuilles clients à gérer qui vous demandent des comptes, les clients. Est-ce que vous leur dites qu'il y a des points d'entrée qui sont en train de se former dans le marché ou il est encore un peu tôt?
Alors, c'est vrai que les clients, bah, c'est compliqué hein, dans ces périodes-là. Mais de toute manière, hein, Guillaume, il faut savoir que c'est la nature humaine. Quand ça monte et que les portefeuilles montent, on ne monte jamais assez. Et quand les portefeuilles baissent, on baisse trop. Hein. On est aussi en France de nature un petit peu pessimiste ou chafouin. Et voilà. Et donc voilà, on essaie toujours de faire mieux que,
oui. Alors là, vous leur dites
quel que soit le conseil. Le contexte, là, on leur dit « wait and see ». Les marchés sont en train de prendre un mauvais pli. On pense que c'est temporaire et éventuellement post-élection, on verra où on en est sur les niveaux de chacune des valeurs. On fera un peu le tri à ce moment-là et on reprendra un petit peu des liquidités qu'on a à droite, à gauche, sur les fonds en euros en assurance vie ou sur les monétaires dans les comptes titres ordinaires pour rebalancer un petit peu de risque dans les portefeuilles à ce moment-là. Mais le moment n'est pas encore venu. C'est encore un petit peu trop.
Vous voyez un Thalès qui perd ce soir quasiment 7%.
Alors qu'on est censé être sur une valeur défensive, je vous l'accorde.
Ouais. Mais pour... Il y a peut-être des contrats qui peuvent se jouer aussi, selon le résultat législatif. Ah, je ne sais pas, à vérifier, mais bon.
Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, si vous voulez, et ça, c'est sans donner une opinion personnelle, mais Jeffries était venu à la rescousse des banques, hein, si vous voulez, en milieu de semaine, en disant comme mouvement, et c'était mercredi, hein, c'était pas, on n'était pas encore aujourd'hui, était exagéré sur les bancaires selon la banque, si vous voulez, pour plusieurs raisons. C'est parce que les peurs qu'il y a sur les bancaires, outre le fait qu'elles sont très cycliques, c'est qu'il y ait des mesures populistes hein, qui soient prises, comme ça a été le cas en Italie. Si vous vous souvenez, le gouvernement Meloni avait pris une taxe sur les super profits bancaires. Et dans le lendemain, elle l'a édulcorée, si vous voulez. Donc Jeffries a un peu nuancé les choses en disant qu'il y a peut-être quelque chose à jouer sur les banques françaises. Elle est à l'achat sur les trois. Ouais. À titre personnel, je me permets de penser que Vinci, qui a aussi beaucoup pris, a un modèle suffisamment diversifié pour pouvoir tenir la route sans de mauvais jeu de mots. Et je me pose la question de savoir s'il y a quelque chose à jouer. Après la question, et c'est pour revenir à ce que vous dites, Thierry, est-ce que le marché français est un couteau qui est en train de tomber?
En tout cas, sur cette semaine, c'était le cas. Donc,
on ne peut pas essayer de les rattraper, les couteaux qui tombent, même avec des moufles. On peut
faut les laisser tomber et attendre que ça se stabilise, voir que ça commence à refrémir un petit peu et à repartir pour pouvoir réaccompagner ensuite. Mais après, en effet, il y a des secteurs qui ont été massacrés, comme la banque. La banque, aujourd'hui, il faut comprendre qu'elle acte davantage de pertes que la récession économique de 2009, suite aux crises de subprime, avait fait encaisser aux banques. Donc, on est quand même dans des scénarios assez extrêmes. Sur les autoroutes, ce qui fait peur, c'est le sujet de la nationalisation de ces autoroutes. Mais c'était dans le programme du RN, pour le coup, de 2022. Ils en parlent plus depuis. Donc... À un moment donné, le futur gouvernement, qu'il soit de gauche, de droite,
au milieu,
ou au milieu, enfin, a priori, il sera quand même plutôt d'un bord assez marqué, il sera rattrapé par ces marchés.
Compliqué. Hein. Ce soir, le CAC 40 perd donc quasiment 3% en clôture. Sur la semaine, moins 6,5% pour notre indice CAC 40. Même des groupes comme LVMH reculent ce soir de quasiment 3%. Là, le PE de LVMH, il devient attractif, non? Enfin, je sais pas, LVMH est à moins 3 ce soir. LVMH, ça reste LVMH. LVMH dépend pas du marché français, d'ailleurs. Enfin, pas essentiellement.
Ah, c'est vrai qu'une grosse partie du chiffre d'affaires est fait à l'étranger. Et toutes ces valeurs-là, d'ailleurs, ont beaucoup moins baissé que les franco-françaises. Les franco-françaises, c'est lesquelles? Bah, c'est celles qui ont le plus baissé dans le CAC 40. C'est souvent aussi les small mid qu'on fait beaucoup moins bien que les valeurs du CAC 40, puisque les small mid, elles ont fait plutôt moins 10, moins 11 sur la semaine. Elles qui surperformaient depuis le début de l'année, elles sous-performent maintenant le CAC. Donc en effet, on est sur un problème franco-français et un LVMH qui fait 40 ou 50% de son chiffre d'affaires, notamment simplement en Asie, devrait pouvoir tirer les marrons du feu à un moment donné. Et avec un PER autour de 21-22 fois, c'est sûr qu'on a envie d'y retourner.
C'est une question qu'on se posait tout à l'heure avec nos experts du club. Le marché qui accélère à la baisse donc en cette fin de semaine, est-ce que c'est aussi le fruit... Alors les sondages qui placent le RN et la gauche unie en tête... La gauche unie dont on a eu le programme aujourd'hui, bon, qui va pas dans le sens de ce que le marché attend, bien sûr, le RN non plus. Enfin, il y a une forme d'idée que le marché, effectivement, se fait de la France, là, à savoir, effectivement, il y avait Emmanuel Macron qui, bon, même si les finances publiques se sont pas du tout améliorées, mais il y a aussi le Covid. Bref, le marché faisait crédit, on va dire, à cette majorité-là. Est-ce qu'il y a une forme de prise de conscience dans le marché que, la France, c'est quand même un pays où l'économie, les idées économiques, sont pas forcément les mieux partagés, on va dire.
Mais il y a trois blocs hein, actuellement, hein, qui est le bloc.
Est-ce qu'il y a ça dans la baisse de ce soir, une forme de prise de conscience que politiquement, ben,
ça,
en France, c'est compliqué.
Ça, c'est évidemment difficile à dire, mais il est aussi évident que le marché prend petit à petit conscience des sondages et des alliances qui se nouent, si vous voulez. Bon, quant à la prise de conscience du programme du nouveau Front populaire, qui est tombé à midi, le marché a commencé à bien accélérer avant. Je pense plutôt qu'aujourd'hui, c'est les investisseurs américains qui se réveillent et qui ont peur du risque avant le week-end. Et qui a peut-être effectivement regardé quelques sondages qui montrent bien que les blocs, disons, aux deux spectres, à droite et à gauche, ont une nette avance par rapport au bloc centriste.
Il y a des sources qui nous disent que la BCE s'inquiète absolument pas. Et c'est vrai que le 10 ans français, il flambe pas, hein, c'est l'écart de taux qui s'accroît. Mais le 10 ans français est à 3,11 ce soir et que pour l'instant, il n'y a aucune raison d'agir. C'est une question qu'on se posait dans le club. Voilà, est-ce que ce qui se passe, l'ambiance, la chute des marchés pourrait déclencher peut-être une politique un peu plus souple encore des centrale de la BCE, pourquoi pas déclencher enfin une baisse de taux de la Fed? On n'en est pas du tout là, on est d'accord Thierry?
Non, et pour le moment, oui, c'est vrai que Christine Lagarde, a priori, élude plutôt les questions sur les problématiques de refinancement de la France et de cette tension sur le taux français, qui atteint les mêmes niveaux que le taux à 10 ans du Portugal. Et puis maintenant, il y a beaucoup moins de différence entre le taux à 10 ans français et le taux à 10 ans grec qu'entre le taux à 10 ans allemand et le taux à 10 ans français. Donc ça veut dire quand même pas mal de choses.
J'essaie de finir sur une bonne note. Et voilà, on termine là-dessus. La France est plus... Non mais c'est vrai, en termes de taux de refinancement, la France est plus proche de la Grèce désormais que l'Allemagne.
Oui, mais la Grèce emprunte moins cher que les États-Unis, rappelons-le.
Les marchés mettent la pression sur nos futurs gouvernants.
Merci messieurs, c'était important de débriefer. Il en sera encore question de cette baisse ce soir dans un instant avec Good Evening Business. Guillaume Paul va vous accompagner jusqu'à 19h. Vous avez entendu l'alerte, on est un peu en retard. Merci beaucoup. Julien Marion, BFM merci Bourse. Guillaume. Et Thierry Gauthier, directeur général de GSD Gestion, était ce soir nos invités. Le CAC 40, donc pire semaine depuis mars 2022. À l'époque, on était dans l'invasion de l'Ukraine par la Russie. C'est pas rien. Là, on se perd ce soir 2,7%. On perd sur la semaine plus de 6,5% à la Bourse de Paris. Le CAC 40 a effacé tous ses gains désormais depuis le début de l'année. Bonne soirée à tous.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.